Chrétien par temps de crise, c'est le thème qu'ont retenu les dominicains de Bordeaux pour leur conférence de carême 2021. Aujourd'hui, nous vous proposons l'intervention du frère Romaric, l'Eucharistie, Dieu en chair et en os et en nous, une intervention enregistrée le 7 mars 2021. L'Eucharistie, Dieu en chair et en os et en nous, le frère Romaric.
Dans le cadre de ces conférences, nous abordons aujourd'hui le thème de l'Eucharistie. L'Eucharistie, Dieu en chair et en os, et en nous. Alors certains peuvent se demander peut-être pourquoi nous abordons cette question-là, de cette manière-là, dans ce contexte de ces conférences-là de carême. Quel est le lien entre l'Eucharistie et le chrétien en temps de crise ? C'est que deux raisons, au moins, rendent compte d'un certain lien, voire d'un lien certain, entre le thème de la conférence de ce jour et le thème général de nos conférences. La première raison est que l'Eucharistie est, selon l'enseignement de l'Église, la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Elle est par conséquent cette nourriture qui aide justement le chrétien à tenir bon par temps de crise. En temps de crise, c'est dans l'Eucharistie que nous recevons et trouvons ce soutien de la grâce qui nous permet de faire face dans les difficultés. La seconde raison est à l'opposé que l'Eucharistie, qui devrait donc être un soutien et une force, peut aussi être une fragilité et un lieu de crise. Alors que nous pouvons légitimement attendre de l'Eucharistie qu'elle soit notre force, notre réconfort dans l'adversité, nous constatons qu'elle peut en réalité devenir un lieu de conflit, de tension, de division, de fragilisation et de souffrance. L'Eucharistie devient alors l'exact opposé de ce qu'elle est censée être. Au lieu d'assurer l'unité de l'Église, elle semble en favoriser la désunion, nous fragilisant plus encore que nous ne l'étions, parce que en période de crise. Alors remarquons que ce n'est pas nouveau, puisque saint Paul, déjà dans certaines de ses lettres, signale ce danger de la division des chrétiens à propos de l'Eucharistie. Alors la question qui se pose à nous à présent, celle que nous allons essayer d'explorer maintenant, est de déterminer que faire, comment faire, pour qu'en ce temps de crise qui est le nôtre, l'Eucharistie soit effectivement le soutien qu'elle devrait être et non un facteur supplémentaire de crise. Pour essayer de répondre au mieux à cette question, il convient alors de bien comprendre ce qu'est profondément l'Eucharistie, c'est-à-dire de porter sur elle le regard le plus théologique et théologal que nous pourrons porter. Un regard dégagé par conséquent de considérations importantes, certes, mais non moins seconde, je ne dirais pas secondaire, mais en tout cas seconde, qui trouble parfois notre réflexion en nous détournant de l'essentiel. Et c'est pourquoi, je le dis d'emblée, cette conférence sera résolument théologique et catéchétique. J'en vois qui prennent des notes, vous avez raison, ça facilitera la suite de la conférence. Mais j'ose espérer que ce sera une conférence théologique, pédagogique également. Une telle approche théologique, catéchétique, nous invite par conséquent à considérer l'Eucharistie en ce qu'elle est fondamentalement, à savoir tout simplement un sacrement. Et non pas n'importe quel sacrement d'ailleurs, puisqu'elle est même le saint sacrement par excellence. Alors, c'est pourquoi dans cette conférence, nous verrons deux grandes parties, inégales en temps. Dans une première partie, nous verrons un petit rappel sur ce que sont les sacrements en général. Puis dans une deuxième partie, nous verrons comment appliquer ces caractéristiques générales à l'Eucharistie. Tout d'abord, les caractéristiques générales des sacrements. Cela doit peut-être rappeler de lointains souvenirs de catéchisme. Qu'est-ce qu'un sacrement ? Un sacrement, selon la définition classique, des signes toutes simples à retenir, le signe visible et efficace de la grâce invisible. Signe visible et efficace de la grâce invisible. Autrement dit, Le sacrement se définit d'abord comme étant un signe. Alors un signe un peu particulier parce qu'il produit la réalité même qu'il signifie, à savoir la grâce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la mesure où le sacrement est un signe, il va présenter nécessairement, comme tout signe, deux aspects. D'une part, ce qui dans le sacrement est perceptible et n'est que perceptible. C'est ce qu'on appelle le signe en tant qu'il est signifiant, c'est-à-dire en tant qu'il signifie autre chose. Donc il y a dans le signe le signifiant, et puis il y a d'autre part ce qui dans le sacrement est cette réalité autre que le signifiant à laquelle le signe perceptible renvoie. C'est ce qu'on appelle le signe comme signifié. Un exemple. Les cinq lettres de l'alphabet T-A-B-L-E, table, sont un signe signifiant une réalité autre signifiée qui est la table. Quand je vois le mot table, je ne vois pas une table, je vois un signe signifiant qui renvoie à une autre réalité, celle qui va être signifiée, qui est la table concrète, avec ses pieds et son plateau. Le sacrement comme signe va présenter ces deux aspects, sauf que, pour compliquer un peu le tout, parce que sinon ce ne serait pas drôle, le sacrement va présenter une troisième dimension intermédiaire qui n'est ni purement signifiante, ni purement signifiée, ni tout à fait l'une, ni tout à fait l'autre. Un truc un peu mixte. On va préciser un peu cela. Tout d'abord, le sacrement en tant qu'il est purement signifiant. Ça, c'est à la surface du sacrement, en son écorce visible, extérieure. C'est le sacrement qui se présente comme signe seulement. Très concrètement, c'est le rite extérieur du sacrement, ce que je vais percevoir à travers mes sens, et qui n'a pas d'autre intérêt que de conduire à une réalité plus profonde, plus réelle que le rite lui-même. Ce rite lui-même perceptible va à son tour avoir deux composantes, ce qu'on appelle techniquement la matière et la forme. La matière, c'est-à-dire l'élément matériel tel qu'on peut le voir, le toucher, le goûter, le sentir. Pour le baptême, la matière du baptême, c'est l'eau. Pour la confirmation, le Saint-Crème. Le problème de cette matière, c'est qu'il y a des sacrements où ça va être un peu difficile à identifier. Quelle est la matière du sacrement de la confession, par exemple ? Par conséquent, plutôt que de parler d'un élément matériel qui peut nous restreindre un peu dans la compréhension que nous en avons, il est parfois plus clair de parler d'une action humaine. Pour le baptême, ce n'est pas simplement l'eau, mais c'est le bain d'eau pour l'enfant ou le catéchumène. Pour la confirmation, c'est l'onction d'huile. Pour la confession, ça va être l'aveu des fautes par le pénitent et sa contrition. Sauf que si je m'arrête à cette seule action humaine, elle n'est pas toujours suffisamment signifiante. Si je plonge un enfant dans l'eau, quand bien même je suis dans une église, est-ce que je suis en train de le baptiser ou est-ce que je suis en train de le laver ? Si je plonge l'enfant dans la baignoire de la salle de bain, est-ce que je suis en train de le laver ou est-ce que je suis en train de le baptiser ? La seule action matérielle, humaine, est insuffisante. Il faut, en plus d'elle, ce qu'on appelle donc la forme, c'est-à-dire une parole qui va expliquer le geste, qui va accompagner le geste et qui va lui donner toute sa signification. C'est le fait que quand le prêtre plonge l'enfant dans l'eau ou lui verse de l'eau sur le front, dit en même temps « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Cette parole est donc très importante, puisqu'elle vient achever la signification du sacrement. Sans elle, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça, c'est le signe en tant que purement signe, un geste accompagné d'une parole. Il y a ensuite, deuxième aspect du sacrement, le sacrement en tant que réalité purement signifiée, la réalité ultime. Comme je l'ai dit, la dimension perceptible du sacrement a pour objectif de conduire à quelque chose de plus profond, non seulement de montrer quelque chose de plus profond, mais de donner quelque chose de plus profond. C'est la réalité même du sacrement, le but même du sacrement, la fin du sacrement. C'est ce à quoi s'achève le sacrement. Pour le baptême, la restauration dans l'état de grâce. Pour la confession, le pardon des péchés. Quel que soit le sacrement, cette réalité ultime, c'est ce qu'on appelle la grâce. Et plus précisément, ce qu'on appelle habituellement la grâce sanctifiante. La grâce qui vient nous sanctifier. Le geste, le rite qui est posé n'a de sens que de nous donner, de nous conférer, de nous procurer la grâce qui vient nous sanctifier. Une action perceptible, explicitée par une parole, le signifiant, une réalité purement signifiée, la grâce qui sanctifie, et puis, je l'ai évoqué, une réalité intermédiaire, ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Pas tout à fait signifiant parce qu'en fait, cette réalité n'est pas perceptible à l'œil nu et pas signifiée parce que ce n'est pas elle le but du sacrement. Donc, c'est un truc un petit peu bancal, plus difficile à concevoir. On ne peut pas rentrer dans le cadre de cette conférence dans tous les détails, mais disons qu'un de ces aspects, c'est qu'elle va introduire le sacrement, conférer au sacrement une certaine pérennité. C'est par exemple ce qui va faire que le baptême ne peut pas être renouvelé, que les époux, tant qu'ils sont vivants tous deux, ne peuvent pas se remarier, que le pécheur, tant qu'il n'a pas commis de nouveaux péchés, ce qui peut arriver au moins pendant 45 secondes, n'a pas besoin de se reconfesser. Donc trois niveaux de réalité, le signe visible, la réalité de grâce signifiée, et puis un élément intermédiaire qui n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. En espérant que ce petit rappel catéchétique est à peu près clair, rentrons maintenant dans le vif de notre sujet, l'Eucharistie. Alors quand on parle de l'Eucharistie, et je l'évoquais en introduction, on ne parle pas de n'importe quel sacrement. On parle de celui qu'on appelle le sacrement des sacrements, ou encore le saint sacrement. Autant d'expressions qui entendent souligner la prééminence de l'Eucharistie. Une prééminence qui tient tout d'abord à ce qui est contenu dans ce sacrement, à savoir le Christ. Dans l'Eucharistie, c'est le Christ substantiellement présent. Ça lui donne une qualité supérieure à tout autre sacrement. Et puis, il y a une deuxième raison qui explique la prééminence de l'Eucharistie, c'est que tous les autres sacrements lui sont ordonnés. Tous les autres sacrements conduisent, d'une manière ou d'une autre, à l'Eucharistie. Comment appliquer les caractéristiques générales que nous avons vues, que nous avons évoquées à propos des sacrements d'une manière générale, à l'Eucharistie ? Le signe visible, tout d'abord, ce qui est purement signifiant dans l'Eucharistie. Généralement, ça ne pose pas trop de problèmes. Le signe sacramentel, ce que l'on voit, le rite de l'Eucharistie, pour la matière du pain et du vin, et pour la forme, la parole de consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le signe sacramentel, ce sont les paroles de consécration prononcées sur du pain et du vin. Ça nous semble très simple et on se dit, pas de problème. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple parce que ces espèces, le pain et le vin, et ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ce sont celles que le Christ a employées lors de la scène. Sauf que l'Eucharistie, est censé être le mémorial de la Pâque du Christ, c'est-à-dire de sa mort et de sa résurrection. Pas exactement le même moment que la scène. Comment concilier les deux ? Il nous faut ici apporter deux précisions. Première précision, quand nous disons de l'Eucharistie qu'elle est le mémorial de la Pâque du Christ, nous entendons signifier que lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons donc mémoire de sa mort et de sa résurrection. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Par cette anamnèse, nous ne nous contentons pas de nous souvenir d'un événement passé, comme nous pourrions nous souvenir d'une naissance ou de n'importe quel événement historique lorsque nous en célébrons l'anniversaire. Quand au 2 janvier, c'est la date de mon anniversaire, je le dis pour que vous en souveniez, quand au 2 janvier on me fête mon anniversaire, on se souvient du jour de ma naissance. C'est tout. Mais dans l'anamnèse eucharistique, il y a plus qu'une simple ressouvenance, puisque l'Eucharistie va, quant à elle, représenter le sacrifice de la croix. Représenter, au sens étymologique du terme en quelque sorte, rendre présent. Par la célébration de l'Eucharistie, nous rendons la Pâque du Christ, son sacrifice, présent et actuel. On va dire un petit peu autrement, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes réellement au pied de la croix, manière de parler. Le sacrifice du Christ sur la croix et celui de l'Eucharistie sont un unique et même sacrifice. À ceci près, et c'est la définition très classique que l'on en donne, l'Eucharistie est la célébration non sanglante du sacrifice sanglant du Christ sur la croix. Donc, si l'Eucharistie renvoie au sacrifice du Christ sur la croix, pourquoi les paroles de la scène ? D'où la deuxième précision. En fait, il nous faut ici distinguer trois sacrifices, intimement liés les uns aux autres. Le sacrifice de la croix, le sacrifice de la scène, le sacrifice de la messe. Le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix est absolument premier, parce que c'est en lui que les deux autres trouvent leur sens et leur valeur. Et d'où vient cette primauté ? Parce que sur la croix, en une seule et même personne, sont réunies toutes les composantes d'un sacrifice, les trois composantes principales, essentielles d'un sacrifice, le prêtre, la victime, l'autel. Sur la croix, c'est le Christ lui-même, en chair et en os, qui est à la fois le prêtre, il offre sa vie en sacrifice, la victime, il est celui qui est offert en sacrifice, et l'autel, il est le lieu de la rencontre entre l'offrande de l'homme, de l'humanité, et l'agrément de Dieu. Identité sur la croix du prêtre, de la victime et de l'autel, sacrifice parfait que celui du Christ sur la croix. Le sacrifice de la scène, maintenant, il ne fait qu'un avec le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la scène est la figure qui annonce et qui contient le sacrifice de la croix. Comme à la croix, nous allons bien sûr avoir identité de la victime, du prêtre et de l'autel. Et avec une petite variante. Tandis que le prêtre est sur la croix comme à la scène, le Christ en sa personne physique, c'est physiquement le Christ. La victime, quant à elle, sur la croix est encore le Christ en sa personne physique, en chair et en os. Mais à la scène, c'est le Christ à travers les espèces du pain et du vin. Ce que le Christ a utilisé à la scène, c'est du pain et du vin. Quant au sacrifice de la messe, maintenant, Il est, par les paroles et la matière employée, la réitération de la scène. Quand le prêtre célèbre la messe, il réitère les gestes et les paroles du Christ à la scène, pas les gestes ou les paroles du Christ sur la croix. Mais dans la mesure où le sacrifice de la scène contient et assume le sacrifice de la croix, lorsque le prêtre reprend les paroles de la scène, si A égale B et si B égale C, alors A égale C. Lorsque le prêtre dit à la messe les paroles de la scène renvoyant à la croix, la messe renvoie également au sacrifice de la croix. Sauf que, à la messe, même s'il y a identité à la fois de la victime, du prêtre et de l'autel, à savoir toujours le Christ, ça n'est plus le Christ en sa personne physique, en chair et en os, c'est toujours le Christ par le truchement d'une réalité intermédiaire. Pour le prêtre, la personne physique, le prêtre lui-même. Pour la victime, les espèces du pain et du vin. Et pour l'autel, l'autel lui-même sur lequel on célèbre l'Eucharistie. Le signe sacramentel visible, signifiant de l'Eucharistie, les paroles de la consécration sur du pain et du vin qui renvoient à la scène laquelle contient le sacrifice de l'Eucharistie. Ça, c'est la partie visible. Deuxième niveau de réalité, de degré dans le sacrement, après la réalité purement visible, voyons maintenant la réalité intermédiaire, celle qui n'est ni tout à fait signifiante, ni tout à fait signifiée, mais un peu des deux. Cette réalité intermédiaire est assez particulière pour le sacrement de l'Eucharistie, car il s'agit ni plus ni moins du Christ lui-même. Le Christ lui-même présent aux espèces du pain et du vin. Cette réalité intermédiaire, c'est ce que très couramment nous appelons la présence réelle. Alors cette présence réelle appelle elle aussi quelques commentaires. Tout d'abord, nous le savons, cette présence réelle est un dogme clairement affirmé par le Concile de Trente, et en tant que dogme qui appelle, qui réclame l'assentiment, l'adhésion de notre foi. Et ce dogme nous enseigne que dans l'Eucharistie, dans les espèces du pain et du vin consacrés, le Christ est vraiment, réellement, substantiellement présent. Vraiment, réellement, substantiellement présent. Vraiment, réellement, substantiellement, et non moins sacramentellement. Pour le dire autrement, dans l'Eucharistie, le Christ n'est pas visible en sa personne physique. Je ne vois pas quelqu'un avec deux bras, deux jambes, un visage, etc. L'Eucharistie reste un signe sacramentel. Il nous faut ici nous garder de deux erreurs possibles. La première qui consisterait à dire, en fait, dans l'Eucharistie, le Christ n'est présent que symboliquement. C'est juste une image, c'est pas vraiment le Christ. Ce pain nous fait penser à Jésus, mais c'est pas vraiment Jésus. Présence symbolique, ce serait une erreur. Deuxième chose, l'erreur opposée, penser que quand je vois l'hostie, je vois Jésus avec ses bras, ses jambes, etc. Non. Nous ne voyons pas Jésus comme tel quand nous voyons l'hostie consacrée. La présence réelle implique en outre que ce qui est présent n'est pas seulement un corps et du sang, mais plus que cela, un corps et du sang et une âme, c'est-à-dire une personne tout entière. Ce corps et ce sang, le prêtre les consacre tels qu'ils sont actuellement, aujourd'hui même, avec un verbe « être » au présent. « Ceci est mon corps » et non pas « ceci a été mon corps » ou « sera mon corps ». Ceci est mon corps, est mon sang. La consécration consiste donc à établir une relation très particulière entre les éléments que nous voyons posés sur l'autel et le Christ tel qu'il se trouve au ciel. Au moment de sa mort, avait été séparé son corps, son sang, son âme. La mort se définit notamment par la séparation de l'âme et du corps. Ces différentes composantes restant toutefois unies à la divinité du Christ. Mais elles n'étaient plus unies entre elles directement. C'est à la résurrection du Christ que tout a été réuni, de nouveau rassemblé. De sorte que la consécration, aujourd'hui, fait venir sous les apparences du pain un corps vivant qui ne peut plus être séparé de son sang, de son âme ou de sa divinité. Donc là, il y a un principe qu'on appelle le principe de concomitance qui fait que quand le prêtre consacre le pain en vertu des paroles qu'il prononce, c'est le corps lui-même qui advient, mais ce corps avec tout ce qui lui est attaché, et donc par concomitance avec le sang, l'âme, la divinité du Christ. Ce n'est pas juste le corps, mais c'est en fait tout le Christ, tout ce qu'il est aujourd'hui au ciel. De ce point de vue-là, il n'y a pas plus de Jésus dans le corps, dans le pain ou dans le vin. C'est tout Jésus à chaque fois. Alors vous comprenez, j'imagine quand même que rendre compte de cette présence réelle de tout Jésus dans ce qui n'était qu'un petit morceau de pain et quelques centilitres ou décilitres, ou litres à la rigueur, de vin, pour la raison, c'est pas ce qu'il y a de plus évident quand même. C'est pas la chose la plus facile à concevoir. Et il y a là une différence donc très importante entre l'Eucharistie et tous les autres sacrements. Les autres sacrements communiquent une grâce divine, mais qui ne fait que transiter par eux. L'eau du baptême reste de l'eau. Le sacrement du baptême ne s'accomplit que par l'usage de l'eau. Et la bénédiction de l'eau, comme la bénédiction des huiles saintes par l'évêque, n'est qu'une préparation de cette matière pour son usage. Ni la consécration de l'eau baptismale, ni la consécration des huiles saintes ne sont le sacrement en tant que tel. Ce qui fait le baptême, le sacrement du baptême, c'est pas que le prêtre a béni l'eau baptismale, mais qu'il a utilisé cette eau baptismale pour baptiser l'enfant. Avec l'Eucharistie, il en va différemment, puisque le Christ en personne réside d'une manière substantielle et permanente dans la matière eucharistique directement. Et c'est pourquoi elle est le seul sacrement à être achevé dans la consécration même de la matière et non dans l'usage de la matière. Et elle va demeurer un sacrement aussi longtemps que demeure la matière consacrée. Tant que le pain demeurera dans ce qu'il est, dans ce que j'en perçois, la présence réelle demeure. Si le pain se corrompt, il n'y a plus présence réelle. Si par exemple, après des mois et des mois conservés dans un tabernacle humide, je découvre que les hosties sont complètement moisies, mangées par les petits champignons, toute verdâtre et que je n'identifie plus du pain, la matière étant totalement corrompue, il n'y a plus présence réelle. Alors, pour rendre compte de ce que le Christ, c'est le Christ lui-même qui est présent dans ce pain et ce vin, pour rendre compte de ce qui n'était que du pain et du vin est devenu le corps du Christ, la théologie a recours à un concept philosophique qui est celui de transsubstantiation. Et le passage, changement de substance, ce qui n'était que du pain, à la substance du corps et du sang du Christ. Concept qui veut donc dire que toute la substance du pain est convertie en toute la substance du corps du Christ. C'est pas parce qu'on a trouvé cette explication que ça devient évident pour l'esprit. Hein. Je suis bien d'accord que ça reste de toute façon quelque chose qui nous dépasse un petit peu, mais par ce biais-là, la philosophie entend montrer qu'il n'y a pas une impossibilité à ce que nous affirmons. Cette présence réelle nous demande encore quelques petites précisions, et notamment pour éviter toute mécompréhension. Il faut en particulier bannir de notre esprit toute image grossière d'un Christ qui serait présent dans l'Eucharistie comme une personne physique enfermée dans une boîte. C'est pas si je coupe l'hostie très finement en deux et que je soulève les deux parties, je vais voir Jésus. Non. Évidemment, non. Le Christ n'est pas présent de ce point de vue-là dans notre schéma mental de la localisation géographique, comme quelqu'un qui est présent, comme vous, qui êtes présent dans cette Église. Il n'est pas soumis aux mêmes conditions de temps, de dimension, de lieu que nous. Il n'est pas contenu dans l'Eucharistie. D'un certain point de vue, il vaut mieux dire qu'il est présent aux espèces du pain et du vin plutôt que dans les espèces du pain et du vin, qui peuvent avoir une petite ambiguïté dans notre esprit. Cela signifie, par exemple, aussi que il n'y a pas plus de Jésus en fonction de la, ou plus ou moins de Jésus en fonction de la taille de l'hostie. Un tabernacle où il n'y a qu'un quart d'hostie n'a pas moins de présence réelle qu'un tabernacle où il y a 1000 hosties consacrées. Même chose. Ou encore, parce que ce sont des idées parfois qui ont été communiquées, si je mords dans l'hostie, je ne fais pas mal à Jésus. Je lui fais mal si je mords par haine contre lui. Ça, effectivement, mais là, c'est l'intention que j'ai. Mais physiquement, le fait de croquer l'hostie ne fait pas souffrir physiquement Jésus. Alors, c'est ça ce qui est compliqué. Il est à la fois réellement, vraiment, substantiellement présent, mais quand même sacramentellement et quand même pas comme dans un lieu. Donc c'est pour nous, c'est difficile parfois à comprendre. Ça reste un mystère sur lequel nous ne pouvons que méditer, contempler et demander au Seigneur de nous donner des lumières. Signe visible de l'Eucharistie, les paroles de consécration sur le pain et le vin, qui réitèrent les paroles de la scène, qui contient le sacrifice de la croix. À réalité intermédiaire, ni totalement signifiant, ni totalement signifié, la présence réelle. Vous déduisez que si la présence réelle est la réalité intermédiaire, ni totalement signifiante, ni totalement signifiée, ça veut dire qu'elle n'est pas le but de l'Eucharistie. Elle n'est que la réalité intermédiaire. Le but de l'Eucharistie n'est pas ultimement la présence réelle. Elle renvoie au troisième aspect du sacrement, la réalité purement signifiée de l'Eucharistie. Troisième point. Et c'est là où généralement nous nous méprenons, parce que très souvent on va penser que le but de l'Eucharistie, le sens ultime, l'Eucharistie, c'est la présence réelle. En fait non, il y a quelque chose d'autre après. La réalité ultime du sacrement de l'Eucharistie, la grâce sacramentelle de l'Eucharistie, ça n'est pas la présence réelle, mais l'édification du corps du Christ qui est l'Église. Le but de l'Eucharistie, c'est de construire, d'édifier l'Église, ce qui va passer par notre communion. Si la consécration est effectivement le moment central de l'Eucharistie. Sans elle, il ne se passe rien. Et à tel point d'ailleurs que le sacrement se trouve achevé dans cette consécration. Si la consécration est le moment central de l'Eucharistie, l'Eucharistie n'en culmine pas moins avec la communion à laquelle la consécration est ordonnée. C'est une idée qui est développée par saint Thomas d'Aquin et que reprend le catéchisme de l'Église catholique, la célébration du sacrifice eucharistique est tout orienté vers l'union intime des fidèles au Christ par la communion. Communier, c'est recevoir le Christ lui-même qui s'est offert pour nous. La célébration du sacrifice eucharistique est tout orientée vers l'union intime des fidèles au Christ par la communion. Ça, c'est dans le catéchisme au numéro 1382. Il y a donc, en quelque sorte, dans l'Eucharistie, un élément premier duquel tout le reste découle, la consécration, et un élément principal auquel tout le reste est ordonné, la communion. Parler de communion demande de parler de l'Eucharistie sous cet aspect où elle est un repas, et même un repas festif, un banquet. Or, le repas est une des actions humaines les plus importantes et les plus riches de signification pour l'homme. C'est le moment où nous consommons ces aliments qui sont nécessaires pour nous donner vie et force. Et dans un repas, normalement, il y a toujours au moins deux éléments. Un élément solide, la nourriture, un élément liquide, la boisson. Généralement, il faut les deux. Sauf si on ne vous sert qu'une soupe qui essaie de faire entre les deux. Bon, mais normalement, un repas, il y a toutes ses composantes. En l'occurrence, du pain et du vin. Et en choisissant le pain et le vin comme composantes de ce repas, du repas eucharistique, le Christ choisit la nourriture la plus fondamentale, la plus essentielle, la plus habituelle pour l'homme, pour avoir force et courage. En choisissant, en outre, le cadre d'un repas pour nous donner son corps et son sang, le Christ nous indique bien qu'il ne s'est pas livré pour être d'abord adoré dans une hostie qu'on va précieusement conserver dans un tabernacle, de pierre ou de bois, mais qu'il s'est livré pour nous d'abord pour être mangé, pour être consommé, pour servir d'aliment, d'aliment vital, et ainsi reposer dans le tabernacle de chair de notre cœur. Tel est le but premier de l'Eucharistie. C'est pourquoi, là aussi, l'Église rappelle que la discipline commune à la messe, c'est de communier. Le principe à la messe, c'est de communier. Ne pas communier est l'exception, et une exception qui doit être justifiée. J'ai déjà assisté à la messe, déjà communié aujourd'hui, ou je ne suis pas en état de communier. J'ai un péché mortel sur la conscience où je ne suis pas baptisé. En dehors de ces motifs-là, le principe est de communier. Qui plus est, ce pain et ce vin consacrés ne sont pas des aliments comme les autres. La banane, par exemple. Quand vous mangez une banane, le principe physiologique, c'est que vous allez vous assimiler la banane. Votre organisme va récupérer dans la banane tout ce qui est bon pour lui et va transformer la banane en moi. La banane va être transformée en frère Romaric, ce qui, pour la banane, est généralement une promotion. Ça marche pour presque tout le monde. Lorsque nous consommons l'hostie, c'est tout l'inverse. Lorsque nous consommons l'hostie consacrée, ça n'est pas l'hostie qui devient moi, mais c'est moi qui deviens ce que je reçois, c'est moi qui deviens cet aliment que je consomme, à savoir le corps du Christ. C'est moi qui suis assimilé au corps du Christ, et pour le coup, c'est pour moi une promotion. L'Eucharistie comme communion renvoie au repas, le repas revoit comme cet aliment qui nous refait. Mais un repas, c'est pas simplement là pour nous refaire. Il n'y a pas que la dimension de réfection dans un repas. La preuve, les animaux eux-mêmes mangent et se restaurent, et pourtant, sauf dans les fables de La Fontaine, on ne dit pas qu'ils partagent un repas au sens propre. C'est que, en plus de cette dimension de réfection, le repas est aussi une cérémonie familiale, un rite communautaire, un moment de sociabilité. Par nature, le repas est un temps de communion. Lorsque les commensaux partagent les mêmes mets, ils mettent à l'unisson leur cœur et leur esprit. Ceux qui partagent un même pain, un même repas, sont en communion les uns avec les autres. C'est l'étymologie du mot « convive » ou de « compagnon ». Compagnon, ceux qui partagent le même pain. Du fait que l'Eucharistie se célèbre par mode de repas, nous entrevoyons donc qu'elle est un mystère non seulement de réfection et de vie, mais aussi de joie, d'union fraternelle. Elle est à proprement parler un banquet. Alors si dans un repas, l'objectif est d'être en communion les uns avec les autres, en ce qui concerne l'Eucharistie, il s'agit tout d'abord d'être en communion avec celui auquel nous communions. Souvenez-vous cette parole de saint Paul, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? » Et c'est donc en ce sens que nous devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Quand je communie, je suis en communion avec le Christ, notamment parce que je deviens ce à quoi je communie. Si nous communions au corps du Christ, si nous sommes en communion avec lui, cela signifie aussi que nous sommes avec lui tel qu'il s'est offert en sacrifice sur la croix. La communion nous assimile au Christ en tant qu'il s'offre tout entier sur la croix à son Père. Et donc, lorsque nous assistons à la messe, nous nous immolons nous aussi avec le Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je l'évoquerai tout à l'heure, mais nous comprenons pourquoi, effectivement, la participation à la messe peut me demander parfois un sacrifice. Et non, plutôt que d'en faire un lieu de division, j'en fais un lieu d'offrande à la volonté de Dieu. Si au cours de la messe, nous offrons au Père ce qui est le plus précieux à ses yeux, à savoir le corps et le sang du Christ, nous ne faisons là qu'un rite extérieur qui, d'un certain point de vue, n'a pas beaucoup de valeur si nous n'y associons pas l'offrande de nous-mêmes et de tout notre cœur. Il y aura une valeur objective de ce geste, puisque le geste du Christ a une valeur infinie, mais de mon côté, si je ne m'y associe pas, pour moi, la valeur est néante. Et bien sûr, si l'Eucharistie me donne d'être en communion avec le Christ, et si chacun de ceux qui communient avec le Christ, à l'Eucharistie, sont en communion avec le Christ, il en résulte que nous sommes tous en communion les uns avec les autres. Et c'est en cela que nous formons un seul et même corps. C'est là aussi ce que dit saint Paul aux Corinthiens, « Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. » Et c'est cela, la grâce ultime de l'Eucharistie. Participer ensemble à un pain unique. Nous ne communions pas, pour le dire autrement, pour notre confort personnel. Je ne communie pas d'abord pour mon petit bien-être spirituel. Et donc la question n'est pas de savoir ce qui me plaît ou ne me plaît pas, ce qui me botte ou ne me botte pas, ce qui me parle ou ce qui ne me parle pas. La question est de savoir qu'au-delà de ma subjectivité, je cherche à être uni à tous les membres du corps du Christ, même au prix de l'offrande de moi-même et d'un sacrifice. Sinon, grand est le risque de sacrifier le but ultime de l'Eucharistie à l'autel de notre égoïsme spirituel. Nous parvenons ici, au terme de notre conférence, qui, je crois ne pas vous avoir menti au début, s'est davantage apparenté à une catéchèse théologique qu'à une pieuse méditation légère et de post-digestion. J'espère quand même qu'elle est restée à peu près compréhensible et accessible à tout le monde. Tirons maintenant quelques conclusions de tout ce que nous avons dit, tous les principes théologiques que nous avons pu évoquer. C'est à bon droit que l'Eucharistie est appelée le pain des forts. Elle est effectivement cette nourriture qui nous donne force et soutien. Elle est ce pain de vie qui nous permet de vivre pleinement la vie chrétienne d'enfant de Dieu et non pas simplement de la vivoter. Car l'aliment que nous consommons alors n'est pas n'importe quel aliment, mais ni plus ni moins le Christ lui-même, vraiment, réellement, substantiellement présent. La communion à un tel aliment nous assure ainsi une double force. D'une part, elle nous assimile à celui auquel nous communions. Avec elle, nous devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. D'autre part, en nous assimilant à celui auquel nous communions, elle renforce notre communion non seulement avec Dieu, mais aussi entre nous. Avec elle, nous participons à l'édification du corps du Christ, du corps mystique du Christ, l'Église. Et donc, je le redis, parce que c'est une idée essentielle et qui très souvent est ignorée, la finalité ultime de la messe n'est pas d'abord la consécration destinée à assurer la présence réelle au tabernacle, ni même la communion pour mon confort personnel, mais la croissance et l'unité de l'Église. C'est cette croissance et cette unité qui donnent tout son sens à l'Eucharistie. C'est pourquoi, si l'Eucharistie ne tend plus à assurer notre communion avec l'Église, mais au contraire, à nous mettre à part, à nous dissocier, si elle devient un lieu et un facteur de division, un lieu et un facteur de crise, elle devient le contraire de ce qu'elle est censée être. Et elle perd tout son sens. Dès lors, nous pouvons nous interroger sur la légitimité des raisons que nous avons d'y participer et d'y participer activement, c'est-à-dire de communier. Que faire ? Comment faire ? Quand nous sommes éprouvés lors de la célébration de l'Eucharistie, voire à cause de cette célébration ? Eh bien, tout simplement nous offrir nous-mêmes en sacrifice, en renonçant à nous-mêmes, à nos préférences personnelles, au bénéfice de l'Église et de notre communion avec elle, dans la foi, l'espérance et la charité. Cela prime tout le reste. Ce sacrifice peut être de taille. Il peut même être héroïque. Et nous trouvons donc là une manière toute particulière, très haute, de participer au sacrifice du Christ sur la croix, de vivre le combat spirituel qu'il a lui-même livré pour son corps qui est l'Église. Que l'amour de l'Eucharistie nous entraîne à aimer toujours plus l'Église et que notre amour de l'Église nous entraîne à aimer toujours plus l'Eucharistie.
Chrétien par temps de crise, l'Eucharistie, Dieu en chair et en os et en nous, vous venez de suivre l'intervention de frère Romaric lors des conférences de carême des Dominicains de Bordeaux, une intervention enregistrée le 7 mars 2021.